Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence pour un nouveau numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est toujours Robert Schumann, à l'œuvre duquel nous allons consacrer un deuxième volet. Pour ceux qui n'auraient pas écouté le précédent numéro de Mélomanie, sachez que nous y avions longuement évoqué l'œuvre pour piano de ce représentant emblématique du romantisme allemand, compositeur admirable mais personnalité tourmentée à la vie douloureuse. Nous allons donc continuer l'exploration de son œuvre. Je retrouve pour ce faire mon complice Michel Brun, fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse et du festival Passe ton bac d'abord. Michel est un grand admirateur et un grand connaisseur de la musique de Robert Schumann, vous le savez depuis la semaine dernière, et je ne vous cache pas que je suis particulièrement heureux de me replonger en sa compagnie dans l'œuvre schumannienne. C'est parti pour un retour arrière spécial Schumann.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Michel, merci d'avoir accepté de nous proposer ce deuxième volet dédié à Robert Schumann et son œuvre. Alors, nous nous sommes arrêtés lors du précédent numéro sur l'unique concerto pour piano composé par Schumann, mais peu avant, nous avions évoqué la rencontre et la grande amitié qu'il avait unie à Félix Mendelssohn. Des rencontres, des amitiés, il y en a eu plusieurs avec ses contemporains, notamment une très importante avec un autre géant de l'époque romantique, Johannes Brahms. Grande rencontre ayant aussi donné lieu à une véritable amitié entre les deux compositeurs, qui étaient pourtant séparés d'une bonne génération, puisque Brahms a tout de même 23 ans de moins que Schumann. Amitié un peu filiale, Michel ?
Très probablement, je pense qu'effectivement, il y a eu deux très grandes rencontres dans la vie de Schumann. Il y a eu une rencontre amoureuse, bien sûr, même si Clara Schumann a tendance à occulter le fait que, avant la rencontre avec Clara Wieck, Schumann était tombé amoureux d'autres jeunes femmes. Mais donc cette rencontre avec Clara Wieck, qui deviendra Clara Schumann, donc son épouse, et puis en amitié, une deuxième rencontre très forte qui est indéniablement la plus forte de toutes, celle avec Johannes Brahms. Et je pense que Schumann a vu en Brahms, quelque part, son successeur. On a une vision, nous, peut-être un petit peu faussée de Brahms à cause de ces images de ce très beau vieillard, d'ailleurs avec une grande barbe blanche, descendant presque jusqu'au milieu de sa poitrine, et cet air un peu sentencieux. Il y a aussi ce dessin où on le voit se promenant les mains dans le dos, un peu voûté. Qui est magnifique. Mais c'était un jeune homme d'une beauté absolument sidérante.
Les photos de Brahms, ce jeune, mais c'est impressionnant.
C'est impressionnant.
C'est vraiment la gravure de mode, telle qu'on l'imaginera aujourd'hui.
C'est un jeune homme fougueux, un jeune homme avec
un regard clair et profond.
Voilà, tout à fait. Et lors de cette rencontre, Schumann a écrit ça après cette rencontre, donc dans son journal musical qu'il avait créé, qui d'ailleurs, il faut le préciser, existe toujours. Il l'a cédé à un moment donné de sa vie parce qu'il ne pouvait plus s'en occuper, mais le journal qu'il a fondé, que Schumann a fondé, existe toujours, le journal de critique musicale, on pourrait dire. Il a dit ceci de Brahms, en l'entendant jouer, « Il est venu cet élu sur le berceau duquel les grâces et le héros semblent avoir veillé. » Voilà, je pense qu'on peut pas dire plus. Il a probablement reconnu celui qui, effectivement, lui succéderait dans la musique romantique allemande, très certainement.
Et il ne s'est pas trompé, on peut dire.
Et il ne s'est pas trompé, il n'y a aucun doute, il y a une filiation, même si la musique de Brahms est très différente de celle de Schumann.
Alors ça, on va le voir, juste petit aparté, petite rubrique people dans notre portrait de Robert Schumann. Il pourrait y avoir eu, il y a peut-être eu, une relation entre Clara Schumann et Johannes Brahms. On n'en est pas certain, mais il y a quand même...
Alors,
quelques écrits qui peuvent
voilà.
Penser.
Alors, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que Brahms donc a été fasciné par Robert Schumann sur le plan de l'amitié et sur le plan de la musique, mais il a été également fasciné sur le plan amoureux par Clara Schumann, qui était son aînée, mais qui était encore on va dire une jeune femme. Et il a écrit donc cette chose dans son journal: je sens que je ne pourrai plus aimer de jeunes filles avant longtemps. Du moins, je les ai pratiquement oubliées. Elles promettent seulement le paradis quand Clara nous le révèle. Voilà. Donc là, je crois qu'il n'y a aucun doute. Le jeune Brahms était amoureux de Clara. Il y a eu des gloses, des volumes entiers écrits pour savoir s'ils ont consommé cet amour. Il semblerait que non. En tout cas, certainement, pour Clara, il a été un appui très important à un moment donné où les choses commençaient à mal tourner pour Robert, c'est-à-dire Robert Schumann.
Et pour leur couple.
Voilà, et pour leur couple, absolument. Et donc, je pense que ça a été très important pour elle, l'arrivée de ce jeune homme, disons, qui redonnait une certaine foi en la vie et en la musique. Mais par contre, il y a une chose qui est étonnante, c'est que à la mort de Robert Schumann, Clara s'est éloignée elle-même de Johannes Brahms, a beaucoup moins entretenu la correspondance, etc., etc. Donc voilà, on ne peut pas dire que, j'ai envie de dire avec cynisme, une fois la place libre, par exemple, elle ait souhaité entretenir une relation amoureuse avec Johannes Brahms. On reste dans une chose ambiguë, on n'en sait pas plus, et c'est très beau comme ça d'ailleurs.
Aimez-vous Brahms, pour reprendre le titre d'un roman célèbre de François Sagan, eh bien ça va être tant pis pour ceux qui n'aiment pas sa musique, puisque nous allons écouter du Brahms, et vous avez souhaité que ce soit sa sonate pour piano numéro 3, opus 5. Elle est jouée ici par Julius Katchen. La sonate pour piano numéro 3, opus 5 de Johannes Brahms, interprétée par le pianiste américain Julius Katchen. Pourquoi vous avez choisi cette œuvre, Michel ? On n'y sent pas vraiment l'influence de Schumann, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah non, alors, mais c'est ça, on l'a déjà dit dans la première émission à propos de Chopin et à propos d'autres compositeurs, c'est ça l'incroyable qualité humaine de Robert Schumann, parce que effectivement, on sent bien que les influences de Brahms sont très différentes, même s'il y a un socle commun qui est la tradition de la musique allemande et le goût de la littérature, qui fera que Brahms lui aussi écrira beaucoup de Lieder, par exemple. Mais Schumann avait cette capacité à reconnaître la qualité, les qualités éminentes chez d'autres compositeurs, même s'ils avaient un univers différent du sien. C'était le cas pour Chopin, c'est le cas pour Brahms. Mais j'ai choisi cette sonate. Alors, ce mouvement-là n'est pas révélateur de cet aspect-là. Il le met en exergue, Brahms le met en exergue du mouvement lent de cette sonate. Le soir tombe, la lune brille. Ici, deux cœurs amoureux sont unis et s'enlacent bien heureux. Voilà. Et donc, il a 20 ans. C'est un tout jeune homme. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est beau, il est fougueux, il est plein d'allant. Et il met ça en exergue. C'est un extrait d'un poème de Sternau. Il met ça en exergue du mouvement lent de cette sonate. Je pense que ça tombait particulièrement bien. Et puis alors, bon, moi, j'aime beaucoup ce mouvement de cette sonate de Brahms parce qu'on y retrouve tout le côté. Vous savez que Brahms a gagné sa vie au début quand il était jeune en jouant dans des tavernes, des cafés et même, on va dire, des lieux encore un petit peu plus mal famés. Et donc, on entend ce côté-là très populaire qui restera toujours présent dans sa musique. C'est une musique très savante, que certains ont même traité d'un peu ennuyeuse et académique, mais il y a ce côté quand même toujours très populaire qui apparaît par moments dans un petit air hongrois qui vient rappeler cette formation de Brahms dans ses tavernes.
Un aspect de Johannes Brahms que tout le monde ne connaît pas. Merci de nous l'avoir rappelé. Nous allons revenir maintenant à l'un des traits essentiels de la musique et de l'inspiration de Schumann, son attirance pour l'imaginaire, le fantastique et les univers enfantins que nous avions déjà évoqué la semaine dernière et que l'on retrouve entre autres dans les scènes d'enfants, dans l'album pour la jeunesse et dans les scènes des bois. Est-ce que ce ne serait pas là que se trouve le vrai Schumann finalement ? Moi je vois, j'imagine, un enfant hypersensible et rêveur qui aurait eu du mal avec le monde des adultes, qui n'aurait jamais vraiment pu y trouver sa place.
Alors là, je crois que vous décrivez exactement ce qui a dû se passer. Bon, évidemment, c'est toujours des hypothèses, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça, absolument. Quelque chose d'une sorte de nostalgie de l'enfance, de la possibilité pour les enfants, alors que ça n'est plus autorisé pour les adultes, de s'isoler dans leur monde imaginaire. Mais on retrouve bien ça dans beaucoup d'attitudes de Schumann, effectivement, cette manière de quitter brusquement ses interlocuteurs quand il pensait à autre chose ou quand il était vexé par une remarque, etc. D'aller se réfugier, c'est vraiment le mot, comme des enfants dans une cabane, pour se sécurisé pour retrouver
le lieu sûr, c'est le lieu sûr, voilà, hein, où l'enfant
absolument
cherche à se réfugier.
Voilà, et au fur et à mesure, à partir de cette période de sa vie, donc de cette rencontre avec Brahms, c'est pas du tout lié à la rencontre avec Brahms, bien sûr, hein, mais ça correspond à son âge, Schumann va avoir de plus en plus tendance à se réfugier dans ses mondes imaginaires, et d'une manière de plus en plus obsédante, de plus en plus inquiétante. Il va y avoir quelques obsessions qui reviennent comme ça, donc les mondes imaginaires, les mondes lointains, les étrangers, l'étranger, fremd.
On va y venir à ça. Hein.
Tout à fait. Et donc, il se réfugie, et dans les scènes de la forêt, les Valsenen, donc qui sont un peu plus tardives que toutes les œuvres pour piano que nous avons entendues dans la première émission, on sent bien qu'il y a quelque chose de très onirique qui tourne en rond dans son cerveau, disons quelque chose comme
ça. Ah oui, je pense que la musique fut son refuge, c'est le lieu du rêve, c'est le lieu de la magie, et puis c'est l'espace sans doute où il exorcisait ses peurs.
Tout à fait, absolument.
Dans le genre d'œuvres qui font appel à l'univers et à la magie de l'enfance, j'ai cité les scènes des bois, et vous aussi à l'instant, les Waldszenen. En voici un extrait, Vogel als Prophet, oiseau prophète, que joue le pianiste allemand Andreas Steyer. Vogel als Prophet, oiseau prophète, extrait des Waldszenen, joué par Andreas Steyer. Scène des bois qui sont censées illustrer une promenade en forêt. Et dans ce morceau précis, les mouvements que fait un oiseau en vol. Mais moi, je ressens quelque chose de déjà très impressionniste dans cette musique. C'est étonnant, hein ?
Ah, c'est étonnant. C'est pour moi une prémonition, effectivement, de l'impressionnisme. C'est-à-dire, bon, alors, je pense que le caractère de compositeur de Schumann le prédestinait à ça depuis longtemps, puisqu'il aime les formes courtes. Il n'aime pas les développements que d'ailleurs aimera Brahms et a aimé Beethoven avant lui, c'est-à-dire une architecture extrêmement construite dans la musique. Il aime les formes courtes avec ces espèces de sentiments fluctuants, des couleurs qui passent comme ça. Et effectivement, là, on dirait vraiment une pièce impressionniste. Enfin,
ça serait du Debussy ou du Ravel, personne ne s'en étonnerait.
Mais absolument, il n'y a que l'harmonie qui reste encore un peu plus classique que celle de Debussy et de Ravel. Mais à part ça, sur le plan de l'imaginaire, on est complètement... Et ce n'est pas un oiseau, c'est l'oiseau que Schumann a dans la tête.
Oui,
c'est
oui,
un oiseau
oui,
rêvé,
oui.
Mais ce n'est pas un vrai oiseau. Il ne s'est pas amusé à imiter un oiseau comme l'a pu le faire Messiaen avec ses pièces. Voilà. Non, pas du tout, c'est dans sa tête, quoi, vraiment. Et alors, cette interprétation, qui est absolument magnifique, justement, je trouve, va beaucoup dans ce sens-là. C'est-à-dire, ne cherche pas à donner quelque chose d'animé, mais quelque chose de très intérieur. Et sur un piano, donc, de l'époque de Schumann, on entend cette sonorité un petit peu différente, moins brillante, avec des résonances moins longues. Les facteurs ont fait beaucoup de travail avec les pianos modernes, les Steinway en particulier, pour avoir un son plus puissant et avec une résonance plus longue. Mais là, il y a ce côté un peu ténu, un peu fragile dans la couleur du piano que je trouve absolument magnifique.
Autre trait de la personnalité de l'univers de Robert Schumann, très présent aussi dans sa musique, et vous en avez déjà un petit peu parlé là tout à l'heure, c'est son goût pour les pays étrangers ou lointains et pour les déguisements, pour les bals, les carnavals bien sûr, mais plutôt sous la forme de la réminiscence.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que C'était une tradition dans la musique allemande. Tous les grands compositeurs allemands ont écrit des danses. Schubert a écrit des danses absolument magnifiques, des danses allemandes absolument magnifiques, mais qui sont des vraies danses, on pourrait dire. Presque, on pourrait les danser. Avant lui, Mozart, bien sûr, a écrit des danses allemandes. Beethoven a écrit des danses allemandes. Après lui, Brahms écrira des danses. Bon, plus des danses hongroises que des danses allemandes. Et Schumann en écrit aussi, mais on va l'entendre. C'est des fausses danses. C'est des danses comme avec déjà la nostalgie. Moi, j'entends ça, si vous voulez. Il y a eu un bal, on est en plein milieu de la nuit, il y a quelque chose d'un peu blême dans la lumière, il y a des personnes qui se sont endormies dans un coin de la salle de bal, et lui, il erre, encore déguisé, avec un masque peut-être,
alors
et
que
il
la
erre,
fête est finie.
Alors que la fête est finie, exactement. Il est toujours décalé, en un mot. Et on va l'entendre, il y a quelque chose d'une nostalgie dans cette musique qui est absolument extraordinaire et qui montre aussi une part de la souffrance.
De sa difficulté, je pense, à être avec les autres.
Absolument, il est... ailleurs, constamment, même quand il est avec les autres, absolument.
Oui, on a l'impression qu'il est toujours seul, d'une certaine manière.
Voilà, je pense que ça va très bien s'entendre dans cette musique.
Voici la valse allemande, extrait du Carnaval opus 9 de Robert Schumann, interprété par Vladimir Ashkenazy. La valse allemande, extrait du Carnaval opus 9 de Robert Schumann, interprété par le pianiste russe, islandais et suisse Vladimir Ashkenazy. Un petit commentaire, Michel.
Alors, sur la pièce, je pense que là, vraiment, on entend, hein, on a l'impression, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que Schumann essaye de danser avec les danseurs qui dansent la valse?
Je me pose la question, quelqu'un qui essaierait d'entrer dans la danse, mais qui n'y arrive pas, voilà. Est-ce qu'il est rejeté? Est-ce qu'il ne trouve pas sa place?
Voilà, donc, tout à fait.
C'est sans doute un peu l'histoire de la vie de Schumann aussi.
Oui, probablement. Il y a
enfin, avec les autres.
C'est facile, évidemment, connaissant sa vie et connaissant ses tourments intérieurs, de plaquer des choses dessus. Mais enfin, on entend bien qu'il y a des élans. Et puis à chaque fois ça retombe.
Des élans brisés.
Voilà, des élans brisés. Et alors la fin de la pièce, donc c'est la pièce suivante du Carnaval, avant que ne revienne la valse allemande, c'est Paganini, donc dans le Carnaval. Et là on a l'impression d'un tourbillon presque qui confine à la folie. Enfin, comme s'il se tapait la tête contre les murs en se disant mais pourquoi moi j'y arrive pas, enfin. Quelque chose comme ça. Bon voilà, encore une fois, hein, restons modestes dans nos interprétations.
En tout cas, c'est un morceau magnifiquement interprété par Vladimir Ashkenazy.
Absolument.
On peut le dire aussi. Hein,
absolument.
Très grand pianiste.
Très grand pianiste et qui a, alors peut-être un tout petit peu oublié maintenant, c'est un pianiste alors qui a accompli une carrière absolument extraordinaire. Il a enregistré l'intégrale de l'œuvre de Beethoven, l'intégrale de l'œuvre de Schumann, l'intégrale de l'œuvre de Chopin, l'intégrale de l'œuvre de Scriabine, de Prokofiev pour piano. C'est un parcours absolument inouï. Il a été un interprète de Schubert exceptionnel. Voilà. Et donc, je tenais à lui rendre hommage en le faisant figurer.
Il a eu son heure de gloire. Voilà. Bon, maintenant, il a plus de 80 ans.
Voilà,
hein,
tout à fait.
Mais encore, bon, c'est un plaisir de l'écouter comme nous venons de le faire. Nous allons évoquer les derniers temps de la vie de Schumann. Maintenant, plutôt que d'attendre la fin de l'émission pour ne pas terminer sur une note trop triste, on sait qu'il a eu une fin de vie très pénible, marquée par la maladie, pour ne pas dire la folie, et par des relations très altérées avec Clara. Mais comment aurait-il pu en être autrement? Schumann perd l'inspiration. Il semble qu'il ait fait une tentative de suicide non attestée, cependant.
Absolument.
Il va être interné dans un établissement psychiatrique dont il ne sortira plus, et où il se laisse littéralement mourir durant les derniers mois de son existence en refusant de se nourrir. Clara, qui ne voulait plus le voir, hein, lui rendra tout de même une ultime visite 3 jours avant la mort du compositeur, le 29 juillet 1956. Voici ce qu'elle écrit de ce dernier moment avec son époux, très affaibli évidemment. « Il me sourit et d'un grand effort m'en serra dans ses bras. Je ne donnerai pas cette étreinte pour tous les trésors du monde. » C'est très beau, mais c'est terrible, Michel. Hein.
Absolument. C'est pathétique, cette fin de vie et la fin de leur relation, qui a été une relation donc d'une intensité exceptionnelle dans sur tous les plans, hein, de l'élan amoureux au départ, de la vie familiale, et on en reparlera peut-être dans un petit moment d'ailleurs dans la suite de l'émission, donc avec ces 8 enfants quand même qu'ils ont eu ensemble, dont plusieurs sont décédés prématurément, mais tout de même, 8 enfants. Et puis, effectivement, dans la solitude dans laquelle Schumann s'est totalement retiré à la fin de sa vie. Donc, vous faisiez allusion à cette tentative de suicide non absolument attestée. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été repêché par des bateliers dans le Rhin. Il était en robe de chambre, hein, donc il n'était pas en promenade, on va dire. On pense qu'il s'est jeté volontairement dans le Rhin, mais effectivement, il n'y a eu aucun témoin de la scène en question. Et alors, il était à la fin de sa vie, en plus de toutes ses angoisses sur la nuit, sur les fantômes, sur les pays étrangers, sur etc., il était totalement obsédé par de la musique intérieure. Il a écrit une chose absolument incroyable, donc sur le jour, il disait « J'entends une musique glorieuse, jouée sur des instruments comme on n'en entend pas ici-bas. » Donc déjà, pas ici-bas, donc il pensait à la mort. Et la nuit, il était obsédé par une seule et unique note, il semblerait que ce soit un « la ». Il entendait en continu un « la » à travers son cerveau. Et donc, comment ne pas devenir fou, enfermé dans cette prison? En plus, bon, socialement, ça devenait très difficile. Et il a été quand même renvoyé en tant que chef d'orchestre de l'orchestre de Düsseldorf. C'est pas lui qui a quitté, c'est les musiciens qui ont demandé son départ.
Ouais.
Voilà, parce qu'il était devenu incapable de diriger. On raconte qu'à un concert, il continuait à agiter les bras alors que la musique était déjà terminée. Ouais. Voilà, il était tellement dans son monde intérieur. Donc, c'est une fin de vie extrêmement difficile.
Oui, il était vraiment emmuré, on peut le dire, en lui-même à ce moment-là.
Et dans sa douleur.
Pour revenir au vrai Schumann, j'ai parlé du vrai Schumann tout à l'heure, à l'être qu'il était au plus profond de lui-même, vous avez choisi que nous écoutions un extrait de la Fantaisie opus 17, joué par Yvonne Lefébure. On l'écoute et vous nous expliquerez ensuite les raisons de ce choix. La Fantaisie opus 17, jouée par Yvonne Lefébure. Alors Michel, pourquoi avoir choisi cette pièce jouée par cette pianiste pour retrouver le vrai Schumann?
Le vrai Schumann de la jeunesse, puisque voilà, c'est l'opus 17, hein, donc on est revenu bien en arrière par rapport à la fin de vie de Schumann. Alors cette pièce, la Fantaisie opus 17, bon voilà, c'est un chef-d'œuvre absolu de Schumann, vraiment une des plus belles œuvres qu'il ait composées, à mon avis, pour le piano. Et par cette pianiste, alors je ne sais pas si vous le percevez de la même manière que moi, je trouve extraordinaire comment elle joue. Alors Yvonne Lefébure est une pianiste donc, qui est décédée il y a au moins, une vingtaine ou une trentaine d'années, qui est très oubliée à l'heure actuelle, mais c'est bien dommage. J'ai l'impression, en particulier dans le début de l'extrait qu'on a entendu, qu'elle improvise cette musique. Et je trouve qu'il y a une liberté dans le ton. On dirait qu'elle parle avec ses mains, avec son toucher, et il y a ce qu'on appelle du rubato, donc ce temps volé, disons, qui est cette variation du tempo qui fait qu'on a l'impression qu'elle hésite, et puis ensuite, voilà, elle trouve une phrase et elle démarre dedans, qui est pour moi très très schumannien. Et alors en plus, c'est rattaché à un souvenir personnel. Yvonne Lefébure était une personnalité tout à fait originale. C'est quelqu'un qui n'a pas fait la carrière qu'elle aurait dû faire parce qu'elle était dévorée par le trac. Et elle a, par contre, donné énormément de cours publics. public. Et ces cours publics, ces masterclass, comme on dit aujourd'hui, on appelait ça cours public à l'époque, plus modestement, étaient courus. Mais alors, incroyablement, on se précipitait comme on se précipitait à un concert. Et là, elle était dans un cadre beaucoup plus détendu, puisqu'elle n'avait pas à prouver sur la durée d'un concert, un récital ou quoi que ce soit. Et donc, elle se lâchait, j'ai envie de dire. Moi, j'ai des souvenirs. Jeune homme, j'allais, comme beaucoup donc, de musiciens de ma génération et d'autres, l'écouter dans ses cours publics. Alors, elle se mettait à côté de la personne, de l'élève qui jouait. Elle lui expliquait des trucs. Puis, au bout d'un moment, elle n'arrivait plus à expliquer. Donc, d'un coup de fesse, elle poussait l'élève. Elle se mettait sur le tabouret de piano à sa place et elle jouait. Et là, c'était lumineux, ce qu'elle voulait exprimer. Donc, quelqu'un d'exceptionnel, encore plus exceptionnel, je pense, dans ces moments-là que parfois dans ses récitals où elle était vraiment trop prise par le trac.
Et oui, il y a des musiciens qui ont trac et que ça paralyse. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est terrible. Moi, chaque fois que je les vois tout seuls s'avancer vers le piano avec 1 000, 2 000 personnes qui les regardent, je me dis, mon Dieu, et c'est parti pour une heure et demie.
Tout à fait. Ah bah, c'est Glenn Gould qui disait, c'est pas une salle de concert, c'est une arène. Hein,
voilà. Je sais pas. Moi, je serais incapable de faire ça, mais bon, c'est leur métier. Nous allons finir là-dessus concernant l'œuvre pour piano seul de Schumann, et nous allons poursuivre cette émission en abordant une autre facette de son génie, où le piano tient aussi une place importante, c'est le lead, un genre bien spécifique à la musique allemande, qu'on retrouvera un peu plus tard chez nous sous la forme de ce qu'on a appelé la mélodie française. L'amour que Schumann nourrissait pour la littérature et plus particulièrement pour la poésie le vouait à devenir inévitablement un grand compositeur de leader, Michel.
Ah ben ça c'est évidemment inévitable. Pour au moins deux raisons. La tradition allemande qui veut que, effectivement, bien avant la musique française, hein, vous l'avez dit, la musique française, ce sera plutôt avec les pré-impressionnistes et avec les impressionnistes, donc Fauré, Déodat Sévrac, Debussy,
oui,
Ravel.
Ça sera la grande époque de la
voilà.
musique française, même si donc, le premier c'est Berlioz. Tout de
même si le premier c'est absolument tout à fait. Mais c'est une grande tradition. Alors pareil, je le disais tout à l'heure à propos des danses allemandes et des valses, Mozart, Beethoven, Schubert, alors ô combien.
Schubert, bien sûr, oui.
Et bien entendu Schumann et Brahms et puis tous les compositeurs allemands
Wagner
moins connus
aussi,
que
mettra,
absolument
hein,
voilà. Et puis la deuxième raison, on l'a dit beaucoup au cours de la première émission, c'est ce goût pour la littérature et en particulier pour la poésie plus encore que pour les romans qu'avait Schumann, et donc évidemment que les deux devaient se conjuguer
voilà, effectivement pour donner
ça. Mais à condition que le lead correspondent à ses propres obsessions. Et le premier cycle de Lieder qu'il a écrit, donc les Liederkreis, après donc toute cette floraison d'œuvres pour piano seul, Liederkreis, premier poème mis en musique, les nuages chillonnés d'éclairs rougeoyants viennent du pays natal, mais il y a déjà longtemps que père et mère sont morts, etc., etc., plus personne ne me connaît là-bas. On retrouve les obsessions de Schumann à travers des poèmes d'autres poètes, enfin deux poètes évidemment, mais la mort, le pays étranger, l'oubli de soi, etc., etc. Voilà, donc à condition que ça recoupe, on va le voir à travers les quelques exemples choisis.
Tout de suite, un premier lead de Robert Schumann dans cette émission, un extrait du cycle Dichter Liebe, dont voici le premier lead, Im wunderschönen Monatmai, interprété par Christophe Prégardien, accompagné une nouvelle fois par Andreas Steyer. im wunderschönen Monat Mai, au merveilleux mois de mai, même si nous sommes au mois de mars. Premier lied extrait du cycle Dichterliebe, interprété par le ténor allemand Christophe Prégardien, accompagné au piano par Andreas Steyer. Je dois préciser que le cycle Dichterliebe, les amours du poète, compte 16 lieder, tous composés sur des poèmes d'Heinrich Heine en 1840. Et 1840, c'est l'année du mariage avec Clara. Schumann a d'ailleurs dédié ce cycle à sa jeune épouse. Alors c'est vraiment une ode à l'amour, hein, on peut le dire. Le poète étant une sorte de double du compositeur.
Ben voilà, je crois qu'on peut le dire, c'est assez transparent, hein, et absolument. Là, sur cette période heureuse, une des rares périodes heureuses de la vie de Schumann, c'est-à-dire après ce long combat contre le père de Clara, enfin, leurs noces peuvent être célébrées, et donc on sent, par le choix de ce poème, ce premier poème qui ouvre ce cycle de 16 lieder, donc, mais bon, les choses ne vont pas durer.
Ah non.
Et on sent une autre chose aussi, donc, qui est très importante, je trouve, c'est, on parle maintenant donc de musique vocale, mais la part du piano...
Alors oui, ça c'est frappant, je trouve, c'est que la voix et le piano ont un rôle mélodique égal.
Absolument, absolument. C'est pour ça...
Cette écriture en double, je me demande là encore si ça ne renvoie pas un peu à la schizophrénie qu'on a prêtée à Robert Schumann.
Alors,
ça ne s'exprime pas à travers aussi...
Voilà, en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il n'utilise pas le piano comme beaucoup d'autres compositeurs lorsqu'il l'utilise avec la voix. Le piano ne se contente pas d'accompagner, il est un partenaire à part entière aussi important. Ce qui rend d'ailleurs l'interprétation des lieder de Schumann très difficile, parce que il faut un grand chanteur, et là on vient de l'entendre, voilà, pour chanter ça, ce passage très pudique avec pudeur et en même temps qualité vocale, et il faut aussi un grand ou une grande pianiste, et ça n'est pas si fréquent. Il y a une tradition dans le récital de lieder, on va dire, qui est que le pianiste soit un excellent accompagnateur, c'est-à-dire qu'il suive chaque intention du chanteur, mais qu'il ne soit pas lui-même un artiste
au même niveau.
Au même niveau, voilà, hein, qu'il ait plus le côté donc strictement accompagnateur, comme le dit la Castafiore dans Les bijoux de la Castafiore, ce Tintin célèbre, hein, voilà. Et donc, c'est très difficile de trouver des très bonnes interprétations où les deux interprètes sont au même niveau.
Bah, celle-ci, en tout cas,
c'est le cas.
Est une petite merveille.
C'est une merveille, absolument.
Un autre lied de Robert Schumann pour illustrer son art très personnel du genre, un extrait du cycle Frauenliebe und Leben, le deuxième lied intitulé Herr der Herrlichste von Allen, chanté par la mezzo-soprano américaine Lauren Hunt, accompagnée par Julius Drake. Herr der Herrlichste von Allen, deuxième des huit leaders du cycle Frauenliebe und Leben, l'amour et la vie d'une femme, interprété par Lauren Hunt, accompagné au piano par Julius Drake. Alors là, il s'agit de compositions sur un recueil de poèmes d'un certain Aldebert von Chamisso, que je ne connais pas, je l'avoue. 8 épisodes de la vie d'une femme, parce que dans ces poèmes, c'est la femme qui parle.
Absolument. C'est des poèmes très intéressants, alors évidemment qui reflètent très bien, on va dire, la vision de la femme à l'époque de Schumann et du milieu du 19e siècle, en Allemagne en particulier, mais je pense partout en Europe. C'est on va dire, la vision de l'homme comme étant le prince charmant, voilà, qui va donc habiter totalement la vie de cette femme. Et donc ça, c'est le deuxième leader, le moment où elle tombe amoureuse, elle est éperdument amoureuse. Et
oui, donc, c'est ça, lui, c'est l'expression de l'admiration, la fascination amoureuse voilà, de lui, la femme pour l'homme qu'elle aime.
Le héros, on va dire, hein, Herrlich, celui qui règne, quoi, disons, voilà, qui règne dans mon cœur, on va dire d'une certaine manière. Bon, voilà, on peut trouver ces poèmes un tout petit peu, et ce thème, enfin, cette manière de voir l'amour féminin un tout petit peu passéiste, hein, évidemment, mais quelle intensité musicale dans ce lied, quoi, c'est extraordinaire, cette espèce d'exaltation intérieure, quoi, disons, voilà, de l'amour, c'est merveilleux.
Et puis magnifiquement chanté par la regrettée Lorraine Hunt, voilà, disparue beaucoup trop tôt, malheureusement.
Encore une chanteuse oubliée un petit peu de nos jours, qui a fait beaucoup, beaucoup de musique baroque, en particulier avec William Christie, qui était des premiers opéras qui ont été redonnés avec instruments anciens, Hippolyte et Aricie, etc., il y a maintenant 35 ans, quelque chose comme ça, hein, et qui est disparue trop tôt, malheureusement, voilà, tout à fait, j'adore cette chanteuse.
Eh bien, merci de nous l'avoir fait redécouvrir et réécouter. Nous continuons avec un autre lied du cycle Frauenliebe und Leben, le quatrième, During an meinem Finger. Et il est interprété ici par la grande mezzo-soprano suédoise Anne-Sophie von Otter, accompagnée au piano par son compatriote Bengt Forsberg. During an meinem Finger, quatrième lied du cycle Frauenliebe und Leben, interprété par Anne-Sophie von Otter, accompagnée par le pianiste Bengt Forsberg. Comme le titre de ce lied l'indique, là, il s'agit de fiançailles.
C'est ça, absolument.
Passe l'anneau.
Absolument. Donc après le lied précédent qui était l'exaltation amoureuse, le lied suivant, alors il faut écouter le cycle entier, c'est une absolue merveille, hein, ce cycle entier, qui est l'inquiétude de l'amoureuse, de savoir si son amour est partagé, si etc., etc. Et là, c'est les fiançailles. Et donc cette espèce de moment suspendu, de bonheur intérieur très intense, mais qu'on garde pour soi. En même temps, il y a beaucoup de pudeur, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette interprétation. Voilà.
Alors donc Anne-Sophie von Otter, je l'ai dit, une grande mezzo, grande chanteuse d'opéra et grande interprète du lied et de la mélodie française, Michel.
Absolument, alors c'est pour ça que je l'ai choisi. On sent là vraiment cette capacité à quitter la scène d'un théâtre et à se retrouver dans quelque chose de beaucoup plus intime et de beaucoup moins démonstratif qu'est le lied.
Merveilleuse chanteuse Anne-Sophie von Otter. Un dernier lied de Robert Schumann, Die Feindliche Brüder, composé lui aussi sur un poème d'Heinrich Heine. Il est interprété par le baryton gallois Bryn Terfel, accompagné au piano par Malcolm Martineau.
Oben auf des Bergespitze liegt das Schloss in Nacht gehüllt. Doch im Tale leuchten Blitze hell, es wird erklirren wild. Das sind Brüder, die dort fechten, grimmen Zweikampf, Blut entbrannt. Sprich, warum die Brüder rechten mit dem Schwerte in der Hand? Gräfin Lauras Augen funken, zündeten den Brüderstreit. Beide glühen liebestrunken für die adlig holde Maid. welchem aber von den beiden wendet sich ihr Herz zu? Keiner drüben kann's entscheiden, Schwert heraus entscheidet, oh, und sie fechten kühn verwegen, hieb auf hieb an jeder Kracht. Hütet euch, ihr wilden Degen, grausig blend verschleichert Nacht. Wir, blutge Brüder, wir, blutges Tal. Beide Kämpfe stürzen nieder, einer in des anderen Stall. Beide Kämpfe stürzen nieder, einer in des anderen Stall. Jahrhunderte verwehen, viel Geschlechte deckt das Grab. Traurig von des Berges Höhen schaut das öde Schloss herab. Aber nachts im Talesgrunde wandelt's heimlich wunderbar. Wenn da kommt die zwölfte Stunde, kämpft dort das Brüderpaar.
Die Feindliche Brüder, Lied de Robert Schumann composé sur un poème d'Heinrich Heine, interprété ici par le baryton Brin Terfel, accompagné par Malcolm Martineau. C'est le dernier que vous avez souhaité nous faire écouter, Michel. D'ailleurs, une raison à ça.
Ben écoutez, voilà, c'est parce qu'on a entendu surtout des leaders très intérieurs, on va dire, hein, sur donc l'amour du poète, la vie et l'amour d'une femme, etc. Mais ça n'est pas le seul univers de Schumann. Il y a aussi cet univers un peu épique, assez violent, de ces deux frères qui se haïssent et en viennent à s'entretuer pour l'amour de la même femme, qui d'ailleurs n'en aime aucun des deux. Voilà, vous voyez que Schumann ne quitte guère ses obsessions autour de la mort, de l'amour malheureux.
Et du tragique.
Et du tragique, voilà. Mais alors là, quelle interprétation! Et des deux interprètes, je suis absolument sidéré par la fusion entre les deux interprètes. La sonorité qu'obtient ce pianiste de son piano, c'est extraordinaire. C'est une découverte, moi je ne le connaissais pas. Mais voilà, rien que pour ça, je suis très content d'avoir fait ces émissions.
Deux musiciens gallois. Hein,
deux musiciens gallois, absolument. Quoique le nom du pianiste, Martineau, ne semble pas de le...
Rien à voir avec notre ami Jules. Julien, le mandoliniste toulousain, mais excellent musicien donc lui aussi. Nous allons terminer cette émission avec deux pièces de musique de chambre, mais de musique de chambre avec piano, vous vous en doutez. La musique de chambre, est-ce que c'est aussi une partie de l'œuvre de Schumann où l'on trouve de très belles choses, Michel?
Alors, incontestablement, oui, il y a des choses extraordinaires dans sa musique de chambre. On va dire que le problème de la musique de chambre de Schumann, c'est qu'elle devait un petit peu comme la musique symphonique, plus correspondre à des canons formels. C'est-à-dire, j'écris un quatuor à cordes, ben, il va falloir qu'il y ait un premier mouvement, avec, comme c'était traditionnel à l'époque, deux thèmes qui vont alterner, on va faire un développement, etc. Et ça, c'est pas l'art dans lequel excelle Schumann. Donc, il a écrit toute une partie de sa musique de chambre, à nouveau des fantaisies Stücke pour violoncelle et piano, des fantaisies Stücke pour alto, clarinette et piano, etc. Donc il était plus à l'aise dans les petites formes. Mais même dans ces grandes formes, et c'est ce que j'ai voulu montrer, il y a des passages absolument fabuleux, vraiment. Intensité musicale extraordinaire, vraiment. Dans deux genres différents d'ailleurs, selon les deux œuvres qu'on va entendre.
Il y a beaucoup de pièces dans sa musique de chambre ou c'est une partie son œuvre assez restreinte tout de même?
C'est une partie relativement restreinte, on va dire beaucoup plus restreinte que la musique pour piano seul et les leaders, qui sont incontestablement
et
les
donc,
deux parties les plus.
On y trouve voilà. Trio, quatuor avec piano,
oui.
Trio à cordes.
C'est ça. Alors, c'est curieux, il a commencé, on a envie de dire, presque à l'envers, par un sextuor, puis ensuite un quintet avec piano, donc puis ensuite quatuor avec piano, et puis ensuite trio avec piano, et sonate pour violon, c'est-à-dire deux instruments. Et puis alors, parallèlement à ça, il y a des quatuors à cordes, bon, dans lesquels on ne sent pas, évidemment, le même génie que dans le quatuor à cordes de Beethoven ou de Schubert.
Ça,
voilà,
ça descend d'un degré.
Absolument, le piano est bien son instrument de chevet, il n'y a aucun doute là-dessus, oui.
Eh bien, pour découvrir la musique de chambre avec piano de Robert Schumann, voici le scherzo du trio avec piano numéro 1 en ré mineur, opus 63, et il est interprété par le trio Florestan. Thank you. Le scherzo du trio avec piano numéro 1 en ré mineur opus 63 de Robert Schumann, interprété par le trio Florestan, qui a manifestement pris ce nom en hommage au compositeur. Bah, c'est très beau ce qu'on vient d'entendre.
Voilà, c'est très beau. Peut-être la particularité de la musique de chambre de Schumann, c'est qu'en réalité, il l'a abordée tardivement. Donc on a vu que les 23 ou 24 premiers opus sont des œuvres pour piano seul, puis ensuite il y a une floraison de leaders qui arrive, et seulement après, il aborde la musique de chambre. Et le problème, c'est qu'il arrive à la partie de sa vie où il commence à décliner. En réalité, il a écrit 3 trios avec piano et les 3 sont de niveau très inégal. Le premier, dont on vient d'entendre un extrait, est une œuvre absolument géniale et les 2 autres sont beaucoup plus faibles parce que, à la fin de sa vie, donc comme on l'a vu auparavant, il avait beaucoup plus de mal à saisir l'inspiration et il était obsédé plutôt par des musiques intérieures intraduisibles et donc il faisait l'effort, il essayait.
Je pense qu'il avait des problèmes de concentration.
Il avait
certainement
des problèmes de concentration, des problèmes. Et puis voilà, puis peut-être sa musique était-elle trop obsédante, quoi, disons, et donc il n'arrivait pas à la traduire en termes compréhensible pour les autres. Et je crois qu'il butait beaucoup là-dessus. Et donc, il y a des éclairs de génie dans sa musique de chambre, absolument, qui la met au niveau, ces éclairs de génie, au niveau des autres grands compositeurs.
J'allais vous poser la question, est-ce qu'il se met, peut-être pas tout le temps, mais par exemple, dans ce trio avec piano numéro 1, au niveau des plus grands dans le genre du trio avec piano, je pense notamment évidemment à Beethoven.
Bien sûr.
Et à Schubert.
Bien sûr, pour moi oui, mais avec la différence, c'est que eux ont été beaucoup plus constants.
Lui qui n'a pas la distance.
Voilà, et lui ne tient pas la distance sur l'ensemble de ces 3 trios avec piano, voilà, tout à fait.
Nous venons d'écouter un trio avec piano, il faut que nous écoutions maintenant un quatuor avec piano, et ça va être le quatuor numéro 1, opus 47, et son magnifique troisième mouvement Andante Cantabile, interprété par le Quartetto Klimt.